Bonsoir, comment allez-vous? J'ai le mauvais goût, très sûr, disait Jules Renard. Ma sœur aînée adorait les variétés quand mes parents ont vu qu'elle avait épinglé sur un des murs de sa chambre une pochette de 45 tours de Michel Fugain, c'était ça à l'époque, ils étaient atterrés. La musique, oui, l'opéra, le jazz expérimental, le chant des baleines, même des personnes, Georges Brassens, Colette Mani, à la rigueur, Ivan Rebrov, oh si j'étais riche. Mais le big bazar, ils ne se sont même pas fâchés. Ils en parlaient tout bas. On se demandait ce qu'elle avait fait. J'ai cru qu'elle s'était inscrite à un parti nazi. C'était bien pire, elle avait mauvais goût. Moi aussi j'adorais le big bazar, mais je l'ai lâché sur ce coup-là, c'était trop risqué. Idem pour les livres, ma vie pour lire un livre de la collection Harlequin. Heureusement, il y avait Cronin, un vrai auteur avec des histoires un peu froute-froute. Sinon, il fallait lire Shakespeare ou la Bible, où il n'y a pas beaucoup d'infirmières pauvres et de médecins riches qui se font des bisous dans les salles de pansement. Le mauvais goût s'infiltre dans tous les domaines de la vie, le langage, les vêtements, la déco, ô combien. Et si elle me plaît à moi, la maison de la mère à Titi? J'adore ça, les chiens qui balancent la tête sur la plage arrière de la voiture. C'est mignon, c'est doux, c'est joyeux, c'est apaisant. On les a balayés du paysage pour cause de ringardise absolue et on s'esclave devant des chatons qui ratent des marches à longueur de réseaux sociaux. Même pour le goût, il y a du bon goût. Dans le resto italien en bas de la maison de la radio, quand ils me voient mettre de l'eau dans mon café, j'ai l'impression de lancer de l'eau de Javel sur une toile de Rembrandt. Ils me donnent d'office un quart de millième de carré de chocolat noir à 205% de cacao, alors que j'aimerais tellement mieux un bon gros carré de chocolat blanc bien sucré.
Bonjour, je m'appelle Maxin, j'ai 4 ans et demi, et je voudrais savoir comment on fait le chocolat blanc. Merci.
C'est une question pour vous, Loïc Bienassi. Est-ce que le chocolat blanc, c'est du chocolat d'abord?
Alors, on peut dire que c'est du chocolat dans le sens où il y a du beurre de cacao dedans, mais il n'y a pas la partie sèche du cacao, d'où sa couleur. Et ce qui fait que certains puristes vous diraient non, là, ça ne mérite pas d'être qualifié de chocolat, mais il y a quelque chose qui est extrait du cacao, vraiment. C'est ce beurre, cette huile de cacao.
Et notre petit Maxence voudrait savoir comment on le fait.
Donc pour faire ce, il faut avoir en tête d'abord comment on fait du chocolat. En général, il y a cet arbre, le cacaoyer, qui produit des fèves de cacao. Et ces fèves, en fait, il y a différentes phases. On les torréfie, on les grille d'abord. Ensuite, on les concasse et on obtient une sorte de pâte de cacao. Hein, j'abrège un peu. Après, les avoir broyées. Donc, cette pâte de cacao, elle contient à la fois de la matière sèche et à la fois de l'huile. Une fois qu'on presse bien cette pâte de cacao, d'accord, on obtient d'un côté de la poudre et de l'autre, du beurre ou de l'huile de cacao, c'est-à-dire une matière grasse. On obtient ces deux choses quand
d'accord,
on presse. Donc, on a là de la matière première, j'ai envie de dire, l'huile de cacao, la pâte de cacao et le sucre. Et ce sont les, on va faire des différentes qualités de chocolat selon les proportions que l'on choisit entre ce sucre, la pâte de cacao et le beurre de cacao. Après,
le sucre, c'est l'homme qui l'apporte.
Ah, tout à fait.
La pâte et l'huile, c'est l'arbre.
Voilà.
Le sucre, c'est l'homme.
Alors, on peut rajouter aussi des matières grasses végétales. Hein. Il y a des différentes...
En plus.
Là aussi, voilà, exactement. Or, on a, à partir des années 30, je crois que c'est Nestlé qui a choisi d'utiliser justement ces excédents de beurre de cacao pour créer le chocolat blanc. C'est-à-dire que, alors que je le répète, il y a le sucre, le cacao en matière sèche et le beurre de cacao, eh bien, ils ont enlevé finalement le cacao matière sèche pour mettre en gros du sucre, d'autres substances et l'huile de cacao.
D'où la couleur blanche.
Exactement.
Si on trempe son doigt dans le beurre et qu'on le goûte, ça a quel goût?
C'est quelque chose de, justement, qui a cette substance très grasse, évidemment, ça va de soi. C'est pas quelque chose d'aussi amer que le cacao, parce que le principe amer, il est plus dans la partie sèche. Donc, c'est finalement, je vais pas dire que c'est quelque chose qui a assez peu de goût, mais je crois que c'est quand même ça qu'il faut, voilà, quelque chose qui n'a pas de saveur très marquée.
Parce que dans notre chocolat blanc, on y rajoute de la vanille, on y rajoute de la noix de coco, souvent.
C'est ça, oui. Et puis, mais même, sinon, on y rajoute d'autres graisses aussi, parce qu'il y a vraiment des chocolats blancs sans ajout de produits qui permettent de le rendre, je sais pas, croustillant ou quoi que ce soit. Mais il est vrai que, de toute façon, le chocolat blanc, dans l'absolu, n'a pas énormément de goût.
Merci Loïc Bienassi, historien à l'Institut l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation de l'Université François Rabelais de Tours, a écrit Le repas gastronomique des Français, édité chez Gallimard.
Bonjour, je m'appelle Juliette et j'ai 6 ans et je voudrais savoir, est-ce que, s'il est là, est-ce qu'on existerait sur Terre? Merci, au revoir.
Bonsoir Juliette, en voilà une question, David Loipre, que vous avez choisi. Vous êtes chercheur en physique, vous êtes vulgarisateur scientifique à travers des livres qui sont édités chez Flammarion et également grâce à la chaîne YouTube Science Étonnante. Une curieuse idée que celle de Juliette, et si la Lune n'était pas là, existerait-on sur Terre ?
Alors bonsoir Juliette, tu as tout à fait raison de poser cette question puisque on a de bonnes raisons de penser effectivement que si la Lune n'était pas là, la vie n'existerait pas sur la Terre. Alors pour comprendre ça, il faut se replonger un petit peu dans l'histoire et les effets de la Lune. La première chose qu'il faut savoir, c'est que en fait la Lune c'est un objet assez bizarre. C'est quelque chose qui nous est très familier, on le voit tous les jours ou presque. Et pourtant c'est un objet astronomique très étrange parce que la Lune est très grosse. La Lune fait à peu près, si on regarde son diamètre, un quart du diamètre de la Terre. Et c'est vraiment gros parce que si on compare ça à ce qui se passe sur d'autres planètes, on voit qu'on est sur des rapports très très différents. Si je prends l'exemple de Jupiter, par exemple, alors Jupiter a des satellites naturels, donc qu'on appelle parfois aussi des lunes. Hein, on peut les voir parfois aux jumelles. Si vous avez une bonne paire de jumelles et que vous regardez Jupiter, vous pouvez voir 4 petits points blancs. C'est vraiment fascinant. Ce sont les 4 plus grosses lunes de Jupiter. Elles font à peu près la même taille que notre lune à nous, sauf que Jupiter est beaucoup plus grosse. Donc comparé à Jupiter, elles sont relativement petite. On peut regarder aussi Mars. Alors Mars, c'est une planète qui fait à peu près, en gros, la même taille que la Terre, qui a aussi 2 satellites naturels, 2 petites lunes, qu'on appelle Phobos et Deimos, mais qui pour le coup sont minuscules, qui font quelques dizaines de kilomètres. Donc en fait, le fait d'avoir un satellite naturel qui soit aussi gros par rapport à nous, c'est vraiment une bizarrerie, une spécificité de la Terre. Et ce qui est fascinant, c'est que on a pu reconstituer un peu l'histoire de la Lune, comment est-ce qu'elle est apparue ici et comment elle est arrivée ici. Et l'histoire est vraiment étonnante. On pense aujourd'hui, l'hypothèse dominante, c'est que la Lune serait née en fait d'une collision entre la Terre, ou ce qui n'était pas encore tout à fait la Terre, et une autre planète qui devait avoir à peu près la taille de Mars, qui lui serait rentrée dedans. Donc les deux planètes auraient fusionné, et puis il y a un petit morceau qui aurait été éjecté et qui se serait mis en orbite autour et qui est devenu depuis la Lune.
Un éclat.
Une sorte d'éclat, voilà, exactement, de cette collision. Alors, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que la Lune, donc, tourne autour de la Terre tourne sur elle-même, mais elle tourne aussi autour du Soleil. Alors, c'est pas forcément très facile de se représenter ce mouvement, parce qu'il y a deux rotations. La manière la plus simple de se l'imaginer, c'est celle d'une toupie. Si vous faites tourner une toupie sur une table, la toupie tourne sur elle-même. Maintenant, imaginez qu'en plus de tourner sur elle-même, la toupie décrive des cercles sur votre table.
Elle le fait quelquefois.
Elle le fait parfois, voilà. Mais il y a une différence avec ce qui se passe généralement avec la toupie, c'est que quand vous faites tourner une toupie sur une table, vous voyez que l'axe de rotation est à peu près perpendiculaire à la table. Et la Terre, c'est pas ça qui se passe. C'est-à-dire, l'axe de rotation de la Terre n'est pas perpendiculaire à son mouvement autour du Soleil.
Il est de travers.
Voilà, il est de travers. Il y a un angle à peu près 23 degrés. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que c'est la cause des saisons. C'est-à-dire que, comme la Terre est légèrement inclinée par rapport au Soleil, à certaines époques de l'année, elle va présenter plutôt le côté sud. Et donc, ça va être l'été dans l'hémisphère sud et l'hiver dans l'hémisphère nord. Et puis, 6 mois plus tard, ça va être l'inverse. Et là, il va faire plutôt chaud dans l'hémisphère nord. Ça sera l'été pour l'hémisphère nord et froid dans l'hémisphère sud. Donc, cette inclinaison, elle est très importante parce que c'est elle qui cause les saisons. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'en fait, cette inclinaison de la Terre, et c'est vrai d'ailleurs de beaucoup de planètes, elle change légèrement. Elle oscille. Je vous ai dit 23 degrés, mais en fait, c'est entre 22 et 24. Alors, ça n'a pas des grosses conséquences. Déjà, ça se passe sur des échelles de dizaines de milliers d'années. Du coup, ça crée des légères variations climatiques, parce que de temps en temps, l'hiver est un petit peu plus rigoureux, l'été un petit peu plus chaud. Ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que si la Lune n'était pas là, ces légères oscillations entre 22 et 24 degrés, elles ne seraient pas entre 22 et 24 degrés d'inclinaison, elles seraient plutôt entre 40 et moins 40 degrés.
Ah, nous c'est-à-dire, y voilà.
C'est-à-dire que l'axe de rotation de la Terre ferait des grandes oscillations. Imaginez que votre toupie soit complètement en train de s'agiter dans tous les sens sur votre table. Et alors ça serait un peu problématique parce que ça veut dire que les saisons changeraient de façon très très brutale. Alors ça serait à l'échelle de dizaines de milliers d'années, mais on alternerait dans certaines régions des hivers fabuleusement rigoureux avec des étés absolument désertiques.
Je me demandais où vous vouliez en venir, ça y est, avec votre inclinaison.
Voilà, c'est ça l'explication. Et on a de bonnes raisons de penser que si le climat avait varié de façon aussi violente, même si c'est sur l'échelle de plusieurs milliers d'années, la vie aurait bien eu du mal à apparaître parce que si elle apparaissait dans une région à un moment donné où il faisait chaud, et bien cette région, peut-être un millier d'années plus tard, pouvait devenir un désert glacé et on peut penser, on n'a jamais de certitude, que la vie ne serait, en tout cas la vie telle qu'on la connaît, n'aurait pas pu apparaître sur une planète comme ça. Et donc c'est fascinant de penser que sans la Lune, qui a une histoire assez bizarre, qui est une, quelque chose de très étrange, la vie n'existerait pas. Et donc peut-être que la Terre est en fait une planète aux caractéristiques uniques ou en tout cas rarissimes.
Petite pensée pour la Lune, quand nous la saluons le soir ou la nuit, le matin tôt dans le ciel. David Loapre, chercheur en physique et vulgarisateur scientifique, a un blog. Vous trouverez son blog sur le blog des Petits Bateaux.
À la fin du jour, dès que tout s'efface, j'avance dans la nuit. Amère et meurtri, si triste que je laisse les papillons noirs posséder mon cœur et ma mélodie. Oh, oh, écoute, oh, oh, il chante la plus triste des chansons de ce triste monde. Des hommes chantés qui connaissaient le prix de la mère vérité, venez vous rassembler, car si le cœur est vide et la vie si vaine, qui va nous pleurer à la procession? Écoute, wow, wow, on chante la plus triste des chansons de ce triste monde, de ce triste monde.
Que vous soyez amis avec Arthur H et qu'un jour il vous dise « Voilà, j'ai écrit une chanson, tu vas te la faire écouter. » Je l'ai appelée « La plus triste des chansons ». Quel commentaire auriez-vous fait sur ce titre? Pas forcément positif. Et pourtant, ça lui va bien, ce titre, « La plus triste des chansons ». On aurait presque aussi pu dire « La plus belle ».
Les petits bateaux sur France Inter.
Vous connaissez le principe des petits bateaux, des enfants nous posent des questions et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre. Odon Vallée est docteur en sciences des religions, ça fait longtemps qu'il est client entre guillemets des petits bateaux. Il a écrit une autre histoire des religions chez Gallimard et puis plus récemment, les religions dans le monde.
Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 11 ans et je voudrais savoir pourquoi Pâques change de mois. Merci, au revoir.
Bonjour, je m'appelle Clément, j'ai 8 ans. J'aimerais savoir comment peut-on décider la date de Pâques. Merci de me répondre.
Ces questions sont exigeantes, Don Valérie.
Voilà, c'est compliqué. Oui. Alors commençons par le plus simple. Comment peut-on décider la date de Pâques? Pâques est fixée le dimanche suivant le 14e jour de la Lune, entre le 22 mars et le 25 avril. Et comme la Lune, c'est pas toujours le même jour, la pleine Lune, et ben ça varie. Alors, certaines années, par exemple, Pâques tombe un jour différent selon que c'est l'Église catholique ou l'Église orthodoxe, parce qu'elles n'ont pas le même calendrier. On n'en est pas sûr de tout cela, parce que les orthodoxes en Europe orientale ont le calendrier julien, qui date de Jules César, tandis que en Europe de l'Ouest, on a le calendrier grégorien fixé par le pape Grégoire XIII en l'an 1582.
Alors, mais mon calendrier à moi des PTT, enfin on dit plus PTT, c'est le calendrier comment?
C'est le calendrier grégorien. Oh. Alors, il est vrai qu'au début de l'Église, dans les premiers siècles, on fêtait Pâques un petit peu n'importe quand. Chaque église locale avait sa date. Mais alors du coup, Pâques était célébré à des dates différentes selon les villes. Ça n'était pas pratique. Il a fallu se mettre d'accord. Mais aujourd'hui, on voudrait bien que Pâques soit célébré le même jour chaque année. Mais les églises ne sont pas vraiment d'accord là-dessus. Alors maintenant, voilà le plus difficile.
Attendez, j'aimerais vous demander juste une chose pour Pâques. Pâques, c'est la mort du Christ et le jour où il est ressuscité, surtout.
Pâques, c'est le jour où Jésus est ressuscité d'entre les morts.
Alors ça, c'est la Pâques chrétienne.
Oui.
Et qu'est-ce que c'est la Pâques juive?
Alors la Pâques juive, Pessa, c'était le passage des Juifs, des Hébreux, à travers la même roue, quand ils fuyaient l'Égypte où ils étaient en captivité. La traversée de la mer Rouge, c'est la Pâque, le grand passage des Juifs vers la terre promise d'Israël.
Donc en fait, Jésus qui était juif a ressuscité le jour où les Juifs ont traversé
voilà,
la mer Rouge.
Voilà, parce que les Juifs célébraient la fête de Pâques au moment où il a été crucifié.
D'accord.
Ils étaient tous en pèlerinage à Jérusalem pour cette grande fête. Et ensuite, deux jours et demi plus tard, d'après les Écritures chrétiennes, il est ressuscité.
Quelle histoire quand même, cette histoire de Jésus. Merci au Don Vallée. Alors revenons sur Terre, on se demandait ce que voulait dire PTT. Alors P, poste, d'accord, et ensuite télégramme, téléphone. Après, Anne-Laure Cochet, tu me dis télécommunication, télédiffusion dans un deuxième temps. Bon, de toute façon, je crois que ça n'existe plus.
Bonjour, je m'appelle César et je voudrais savoir si on pouvait transférer un cerveau humain dans le corps d'un robot. Merci, au revoir.
Laurence De Villers, vous êtes professeure à l'Université Paris-Sorbonne, chercheure au CNRS. Quelle énorme et drôle de question vous pose César, si on peut transférer un cerveau humain dans le corps d'un robot.
Elle n'est pas drôle cette question, elle est tout à fait actuelle.
Ah bon?
Bien sûr, il y a eu un énorme projet en fait, qui a été piloté par l'École Polytechnique de Lausanne, sur cette idée de recopier un cerveau humain sur machine. De là à l'implémenter dans un robot, il n'y a qu'un pas. Ce projet a coûté énormément d'argent à la communauté européenne, à toute la communauté scientifique. Il est absurde de penser qu'un jour, on pourrait recopier le cerveau d'un humain et s'en servir comme un cerveau humain. C'est cela qu'il faut comprendre. On pourrait recopier ses rouages, on peut recopier un certain nombre de choses que l'on connaît, et on ne connaît pas tout. Ensuite, de là à penser que les fonctionnalités du cerveau qui est implémenté dans votre corps, qui est complètement en circuit avec le corps de l'humain, va pouvoir marcher tout seul dans un corps qui n'existe pas, ou qui est juste une machinerie robotique, c'est absurde. De là, cette confusion. On ne peut pas recopier, on ne peut pas transférer un cerveau humain, ou alors on tombe dans ce qu'on appelle les croyances transhumanistes, qui sont là non pas des croyances scientifiques ou des idées scientifiques ou des théories sur lesquelles on s'appuie, mais bien des fantasmes scientifiques, certes.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire finalement, Laurence De Villers? On peut mettre une espèce de moitié de cerveau, lui apprendre à faire des choses et mettre dans un corps humain des tâches pénibles?
Oui, mais il faut garder en tête en fait que, par exemple, on fait voler des avions et pour autant, ils ne battent pas des ailes, ils ne ressemblent pas à des oiseaux.
Ah, c'est bien ça, la comparaison.
Donc nous sommes vraiment sur cette idée qu'on peut simuler des capacités de l'humain sans pour autant simuler toute la fonction, le corps, le métabolisme de l'humain. Et de toute façon, on ne sait pas le faire. On ne sait pas qu'est-ce que le substrat qui soutient la conscience, on ne sait pas cela. C'est-à-dire que est-ce qu'elle est une onde? Est-ce qu'elle est basée sur des cellules? On ne sait pas. Donc, quelle absurdité de vouloir imaginer que juste par les fonctions, on va créer l'humain? Ou juste par la recopie d'entités dont on ne connaît pas les mécanismes très fins et tout petits au niveau de la cellule biologique? Donc, il y a en ce moment une espèce de confusion parce que effectivement, ces systèmes sont complexes et que certains, pour du marketing, pour des croyances transhumanistes qui sont des croyances un peu éthérées ou idéalistes de la science qui vient hybrider l'humain pour l'aider ou pas d'ailleurs, eh bien on a tendance à projeter sur ces machines que on va pouvoir faire cela. Et c'était pas drôle, c'était extrêmement intéressant votre question, César, de savoir si on peut transférer un cerveau humain dans le corps d'un robot.
Intéressant mais impossible.
Il faut se poser la question. Actuellement, c'est vraiment impossible. Demain, je doute que ce soit possible.
Laurence de Villers a écrit « Les robots émotionnels, santé, surveillance, sexualité et l'éthique dans tout ça ». Et c'est aux éditions de l'Observatoire. Sur France Inter, où vous écoutez les petits bateaux. Des enfants posent des questions, des spécialistes leur répondent. Les enfants, juste entre 5 et 35 ans, laissent leurs questions sur notre répondeur 01 56 40 43 57.
Bonjour, j'ai 5 ans, je voudrais vous poser une question très belle. Pourquoi les doudous consolent les enfants? Merci, je m'appelle Naoufel. Merci, gros bisous, au revoir.
Gros bisous à toi aussi, Naofen. Merci pour cette question. Jeanne Siofachin, que pensez-vous de cette question de Naofen et oui, de son commentaire?
Oui, tu as raison, Naofen. C'est une très belle question. Un doudou, c'est un objet, un nounours, un petit bout de mouchoir, un petit objet, un truc conçu,
c'est
qu'on tripote.
Comme son nom l'indique, c'est doux.
C'est pas forcément doux, mais on le rend doux à force de le manipuler, de l'avoir dans la main, de le frotter sur sa joue, de le sucoter, de le sentir.
C'est intéressant.
Oui, c'est pas forcément doux, mais ça a une fonction douce. D'où le nom de doudou. Ça a une fonction douce. Et cette fonction douce, elle vient du fait que un doudou, c'est ce qui permet de mieux vivre la séparation avec les parents, les adultes qui s'occupent d'un enfant. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle dans mon métier de psychologue un objet transitionnel. C'est-à-dire que c'est un objet qui fait la transition comme une passerelle, comme un petit pont entre moi je suis tout seul. Je ne suis plus avec mon papa, ma maman, ma nounou, les gens qui s'occupent de moi, mes grands-parents, des gens que j'aime très fort et
qui
avec
me protègent.
Lesquels, voilà, et puis avec lesquels je me sens en sécurité affective. Je suis à l'école, chez mes cousins, chez des, peu importe, un endroit qui est plus inhabituel. Et ben, grâce à ce doudou, je me sens moins seule et ça me rassure. Le doudou, il est là pour rassurer les enfants et pour faire vraiment ce lien entre l'intérieur de la maison et l'extérieur de la maison qui est vécu quand on est petit comme un monde un peu plus hostile. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on pense souvent que quand on est grand, on n'a plus de doudou. Eh ben, tu te trompes.
Alors, quand le lâche-t-on pour un autre?
Alors, on lâche le doudou de l'enfance. Qu'est-ce qu'on fait, nous les adultes? On a plein de doudous. La cigarette, c'est un objet, finalement, pourquoi fume-t-on? Parce que ça nous rassure. On manipule un objet avec nos mains. Et on sait combien la manipulation avec la cigarette est un geste difficile à arrêter, par exemple, quelquefois plus que les effets toxiques des produits. Et puis, un grand doudou qui est maintenant partout chez les adultes, c'est le smartphone. Quand tu es dans la rue, c'est comme si tu étais dans un flipper. Tout le monde se rentre dedans parce que les gens, ils regardent pas autour d'eux. Ils regardent leur smartphone. Pourquoi ils regardent leur smartphone? Parce que, en fait, dans leur smartphone, il y a tous les liens avec les autres. Par exemple, s'ils regardent un réseau social, ils sont en lien avec les gens qu'ils aiment. Et c'est un doudou drôlement difficile à enlever aux adultes, tu sais.
Et la définition de l'adulte, ça pourrait pas, Jeanne Siofachin, être ne plus avoir besoin de doudou?
Je crois que on devient jamais une grande personne, on fait semblant de l'être. Et je pense que être adulte, c'est prendre par la main l'enfant qu'on a été.
Jeanne Siofachin est psychologue, psychothérapeute. Elle a écrit beaucoup de livres édités chez Odile Jacob. Le dernier s'appelle « Tout est là, juste là, méditation de pleine conscience pour les enfants et les ados aussi ». Vous écoutez France Inter et parfois vous nous reprochez à France Inter de ne parler que de Paris. Vous avez hélas raison et en devinez la raison. Alors quand il y a 10 jours, mes pas m'ont porté dans la jolie ville d'Épinal, je me suis dit c'est l'occasion d'aller voir le MUDAC, Musée départemental d'art ancien et contemporain. Pendant la Révolution, la super riche collection des princes de Salme a été saisie et les œuvres exposées comme biens nationaux. Le musée était alors ouvert. Nous étions en 1793. En 1951, il devient musée de l'imagerie, nous sommes à Épinal, et en 1981, grands travaux. On garde l'ancien bâtiment qui est beau et on le marie à une jeunesse. Les noces sont célébrées en 1992, le couple fusionné fonctionne, c'est le MUDAC. Les toiles époustouflantes confisquées à la Révolution sont toujours là, par exemple à Georges de la Tour. Mais depuis 1793, le monde a changé et on a des choses à montrer. Des choses découvertes sous terre, d'abord une ville antique, celle de Grand. Ces trouvailles sont exposées au MUDAC, mais c'est beau, mais c'est tellement beau et puis c'est tellement touchant de voir à quel point ces Romains, ces Gaulois étaient évolués, doués. Le musée propose des œuvres de la seconde moitié du XXe siècle. Pas toujours si facile à aborder, mais c'est là leur grande force au MUDAC. L'accès, la pédagogie, pas d'intimidation, pas de diktat du bon goût. Ils proposent, ils exposent, on aime, ou pas, ou moins, ou plus, ou plus tard. Mais on découvre. Podcaster mes amis, ces petits bateaux ou réécoutez-les tout simplement par franceinter.fr. Anne-Laure Cochet, Marjorie Devoucq ou Stéphane Combe, Jean-Baptiste Audibert, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous dimanche à 19h30 dans 15 jours, car la semaine prochaine à cette heure-ci, vous pourrez suivre la soirée électorale. À suivre Jérôme Garcin avec Le Masque et la Plume consacré ce soir au cinéma.